que le truc, c'est que...
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter.
En direct du studio 511, une émission réalisée par Aline Pénito, assistée de Lucie Spindler, avec à la technique aujourd'hui Loïc Fracpsos et Lucas Vaillant.
Au sommaire cette semaine, France-Libye, le maniement des larmes et DataBitMe, la résistance numérique s'organise.
2023, les frigos ne feront pas de vidéo haute définition.
Appel de Brice Hortefeux à Thierry Gobert. Ouais Thierry, c'est Brice. Alors je te signale qu'il y a Mediapart là qui cherche beaucoup sur Ziad.
Ah ouais.
Je sais pas comment ils font les mecs. Hein. Je sais pas comment ils font.
Dites-moi monsieur, c'est sérieux les bruits
Stupéfaction, incompréhension, horreur. Mais que s'est-il donc passé pour que la première puissance mondiale élise à sa tête un tel uluberlu, vulgaire, raciste, sexiste et sans aucune expérience politique? Depuis mercredi matin, le monde médiatique en émoi retourne cette question dans tous les sens, incapable encore de réaliser que le cauchemar est devenu réalité. Car les médias n'ont eu de cesse de relayer chacune des propositions les plus odieuses du candidat Trump, insistant sur la facette raciste et sexiste du personnage, ils ont systématiquement passé sous silence toutes les mesures protectionnistes visant à lutter contre les ravages de la globalisation économique. Établissement de taxes douanières sur les produits chinois à hauteur de 40% et sortie des accords de libre-échange, voilà de quoi faire renaître les espoirs dans un pays où 5 millions d'emplois industriels ont été détruits en 15 ans. Et en France, que va-t-il se passer en mai 2017? Au lieu de spéculer sur qui incarnerait le plus un Trump à la française, Comme un bruit revient aujourd'hui sur un des aspects les plus obscurs de la politique française, celle de l'armement. Autour du spectacle de Nicolas Lambert, le maniement des larmes, et avec les décryptages de l'ancien diplomate Patrick Mzadeh, Guy Vanctil revient sur les liens troubles entre France et Libye sur fond de vente d'armes. Et puis avec Antoine Chao, nous irons à Arles, où se tenait la semaine dernière le festival DataBitMe, un espace de création et de résistance 2.0 à la découverte des chemins de traverse du numérique. Comme un bruit qui court, du maniement des larmes à la résistance numérique, c'est jusqu'à 17h sur France Inter, et c'est parti.
Antoine Chao,
Charlotte Perry,
Guy Vanctil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Écrasé. L'entrée du théâtre se trouve dans le passage Pivert, 94 rue du Faubourg du Temple.
On s'est dit que ça ferait une émission comme au théâtre ce soir. Patrick Mzadeh.
Patrick Mzadeh, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien diplomate français à Tripoli, auteur de l'ouvrage Au cœur de la Libye de Kadhafi.
Comme on n'a pas pu aller en Libye, on va au spectacle qui raconte les relations tumultueuses de la France, des marchands d'armes et des Libyens.
Depuis 2013, la justice française enquête sur l'éventuel financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy par le gouvernement libyen.
Les millions libyens pour financer la campagne de 2007 qui refont surface.
Dans ce carnet, il figurerait trois montants. 1,5 million d'euros,
oui.
3 millions d'euros,
oui.
Et 2 millions d'euros.
Gaddafi a payé Sarkozy. À payer pour la campagne.
Ce document est un faux, grossier, tout le monde le sait. Vous croyez vraiment qu'avec ce que j'ai fait à M. Kadhafi, il m'a fait un virement?
Une occasion croisée, des intermédiaires interlopes, des anciens ministres libyens douteux et des morts aussi accidentelles que malencontreuses.
À l'occasion des dernières révélations par Le Monde et Mediapart sur les soupçons de financement libyen de la campagne de Sarkozy 2007, nous avons voulu tenter un petit éclairage sur le passif entre Paris et Tripoli. Un de ces sujets englués entre les faits et des phrases au conditionnel que l'on se promet de lire incessamment et que l'on procrastine souvent allègrement. Alors nous avons choisi de croiser deux regards pour nous aider à comprendre pourquoi il faut pourtant s'y intéresser. Nicolas Lambert est comédien, il est en ce moment à l'affiche du Maniement des larmes au Théâtre de Belleville, un documentaire théâtral sur fond de vente d'armes, d'arrangements troubles, qui reprend mot pour mot les propos de ses principaux acteurs. Tout y passe, citations, discours, interviews et même écoutes judiciaires. Patrick Emzadeh, qui nous accompagne, est chercheur et ex-diplomate en Libye. Il revient pour nous sur les liens troubles entre Kadhafi et Paris. Alors installez-vous confortablement jusqu'à 17h sur France Inter. France, Libye, c'est comme au théâtre. À vous de savoir si c'est une farce ou une tragédie.
C'est là, dans un petit passage, Théâtre de Belleville. Et l'affiche est là, Le Maniement des larmes, de et par Nicolas Lambert. Ah, c'est bien, c'est plein. Bon, j'ai bien fait de vous emmener au théâtre alors, Patrick.
Mais oui, on va revivre un temps d'histoire franco-libyenne. On va voir ça.
Pardon.
Et voilà, alors qu'on s'installe dans la salle, il y a déjà un panneau éclairé. Lieu Paris, objet, le maniement des larmes. Bleu, blanc, rouge, volet 3. Et sur la scène, il y a déjà deux messieurs qui sont installés avec des écrans d'ordinateur, des casques sur les oreilles en costume, qui ont l'air très occupés de s'affairer, qui ne font absolument pas attention aux spectateurs qui s'installent. Ah, la lumière commence à s'éteindre. Patrick, si je comprends pas, si je perds le fil, je peux me tourner vers vous pour vous demander des précisions.
Bah écoutez, oui, pour les affaires libyennes.
Ça commence.
Assalamu alaykoum. Ahlan
bissayed Raïs. Bonjour, monsieur le président.
Bonjour, monsieur le colonel. Monsieur le colonel, je souhaite visiter la Libye et je serais très heureux si vous effectuez vous-même une telle visite en France. Monsieur le colonel, je souhaite donner une nouvelle dimension à nos relations bilatérales, par exemple par rapport à l'énergie nucléaire et dans le domaine de la défense. Je serais heureux si nous pouvons travailler concrètement avec la Libye.
Je suis ravi de ce contact et d'avoir avec vous un ami en Europe. Et je suis très optimiste et je serai heureux aussi de vous rencontrer en France.
Merci infiniment.
Si Dieu le veut, si Dieu le veut.
Oui, je compte sur votre prière, monsieur le colonel. Monsieur le colonel.
Merci.
Si soit-il. Voilà, je n'ai pas prié de la même manière, mais nous prions pour le même Dieu.
Merci infiniment.
Au revoir, monsieur le guide.
Patrick Mzadeh. Alors, on se retrouve au théâtre, où je vous ai amené, parce que c'est une affaire que vous suivez depuis des années, les affaires franco-libyennes, puisque vous êtes, je le rappelle, ancien diplomate, vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle « La Libye de Kadhafi », et vous êtes un de ceux qui suivaient au jour le jour presque la situation dans ce pays où on est entre le polar et l'affaire de Barbouze, des histoires de vente d'armes à la Libye, de rétrocommissions pour financer les campagnes électorales et d'hommes politiques, d'hommes liches, d'hommes de main et d'hommes de paille dont certains disparaissent et d'autres se volatilisent pour échapper à la justice française. J'ai envie de faire appel à vous pour essayer d'un peu de faire un tour de ce qui est révélé à l'occasion de ces enquêtes qui reposent tous sur le nerf de la guerre. Et c'est pourquoi on va voir ensemble la pièce de Nicolas Lambert, le maniement des larmes et sa pièce. Et nous, c'est la vente d'armes dont il s'agit.
Oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que c'est-à-dire que le retour, en tout cas le rapprochement avec la Libye, comme souvent, s'est fait par le prisme, finalement, des matériels militaires. C'est toujours par là qu'a recommencé la coopération. Donc, bien sûr, ce type de contrat, hein, ce type de produit, on sait très bien, s'accompagne de commissions occultes, même de rétrocommissions, comme on l'a vu avec l'affaire du Pakistan. Et là, voilà. Alors là, maintenant, on voit bien qu'aujourd'hui, avec toutes les révélations qui ont été faites par Mediapart, notamment, que un certain nombre de soupçons pèsent justement sur le financement de la campagne du candidat Sarkozy par le guide de la révolution, Kadhafi.
en une Nicolas Sarkozy et Muammar Kadhafi en décembre 2007 à l'Elysée. Et le titre, les liaisons dangereuses de la Sarkozy.
Les millions libyens pour financer la campagne 2007 qui refont surface.
50 millions d'euros ici.
Ce que le quotidien appelle le système Sarkozy.
Alors il y a des présomptions, il y a des attitudes effarantes comme celle de l'intermédiaire Alexandre Djouri, amateur de noms d'emprunt et d'argent liquide.
Même si les preuves manquent.
Alors je rappelle, pour le côté libyen, il faut savoir que c'est une pratique courante pour Kadhafi de financer un certain nombre de candidats. Il l'a fait en Afrique, il le faisait régulièrement. Et donc pour lui, c'était absolument pas une pratique hors norme.
Parce que comme ça, il a désobligé, c'est ça ?
Oui, c'est un petit peu un schéma classique. Et là, la dernière en date, c'est un des carnets du ministre du Pétrole à l'époque, M. Choukri Radem, qui a été retrouvé à Vienne, a été retrouvé... noyé dans le Danube, mystérieusement.
Là, ça ressemble vraiment à un film d'espionnage. C'est-à-dire que cet ancien ministre qui avait incarné avec tous les noms et tous les versements qu'il opérait pour le régime kadhafiste est mort à la fois d'une crise cardiaque, mais repêché dans le Danube.
Oui, voilà, tout à fait. Là, on a effectivement tous les ingrédients d'un roman de Le Carré. Ces carnets qui ont transité par la justice scandinave, qui ont été refournis à la justice française, font état de la remise de sommes en liquide. Donc il est plus précis en parlant des gens qui les ont remis.
Un nouvel élément ressurgit dans l'affaire du financement libyen de sa campagne.
Oui, un carnet de notes qui mentionnerait une série de versements au profit de Nicolas Sarkozy.
Le carnet saisi par la justice française appartenait à cet homme, Choukri Ghanem.
Choukri Ghanem qui a été retrouvé noyé dans le Danube en avril 2012.
Alors l'ancien ministre libyen ne portait pas de traces de coups, mais les enquêteurs autrichiens estiment qu'il aurait pu toutefois être poussé à l'eau.
C'est lui qui aurait noté les trois versements qui auraient servi à financer la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007.
Une série de trois versements pour un montant de 6,5 millions d'euros.
Encore une fois, ses proches crient au complot.
Voilà, donc ça c'est un certain nombre de faisceaux qui alimentent le feuilleton. On en est là pour l'instant, et puisque les juges continuent à faire leur travail, prouver qu'il y a eu un financement. Hélas, on a affaire à de l'argent liquide, donc c'est beaucoup plus dur. Est-ce que ça débouchera sur quelque chose ? C'est encore trop tôt pour le savoir, mais en tout cas, c'est intéressant. Et je dirais que c'est là que l'histoire, petite histoire, rejoint la grande, parce qu'on en arrive ensuite à l'élection de Nicolas Sarkozy, finalement, en 2007, et puis à la guerre de 2011. La guerre de 2011, donc je rappelle que quelques semaines encore avant la guerre, on était en négociation qui était quasiment finalisée pour la vente de l'avion Rafale, le fleuron de l'aéronautique militaire française. Et de M. Dassault, avec ses missiles. Donc tout ça, c'était validé par l'exécutif français. Et on était prêt en décembre 2010, deux mois avant le début de la guerre, à vendre tous ses équipements. M. Kadhafi, qui avait été reçu...
Qui avait pu planter sa tente dans les jardins d'Elysée, comme grand...
Avec le tapis rouge. Il est quand même assez peu fréquent qu'on déploie le tapis rouge pour accueillir un chef d'État étranger à l'Assemblée. Voilà, donc c'était vraiment un interlocuteur, un ami, on était dans une relation formidable.
Monsieur Seyf al-Islam Kadhafi, qu'attend la Libye de la visite de votre père à Paris, le guide de Tripoli, le colonel Muammar Kadhafi ?
Pour nous, il doit couronner les nouvelles relations entre la France et la Libye. Maintenant, la visite du guide à Paris montre que nous avons atteint le sommet de notre relation.
Alors, est-ce que des contrats importants seront signés à l'occasion de la visite de votre père à Paris ?
Bien sûr. Nous allons acheter pour plus de 3 milliards d'euros un réacteur nucléaire. Nous négocions sur les Rafales aussi de nombreux équipements militaires, essieux et Veolia, remporter des contrats importants.
Monsieur Seyf al-Islam Kadhafi, je vous remercie.
Et puis, 2011, un début d'insurrection, un moment révolutionnaire. Et là, à ce moment-là, Kadhafi, il n'était plus l'ami, l'homme respectable à qui on voulait vendre des rafales, mais il est devenu, en quelques jours, le revirement de situation a été vraiment très rapide, l'homme qui devait quitter le pouvoir, et quelqu'un qui était plus sain d'esprit, puisque Sarkozy répétait en permanence à ses conseillers, il est cinglé, on ne peut pas parler avec lui. Donc l'affaire est entendue, la logique de guerre est lancée.
Il ne reste plus qu'à vendre la guerre.
Voilà, il ne reste plus qu'à vendre la guerre. Donc ça a été fait. Il y a eu un tel consensus dans la classe politique, médiatique française, alimentée par notre intellectuel médiatique Bernard-Henri Lévy, qui une fois de plus a vu dans cette guerre une façon de se mettre en avant. Bon, il en a fait un livre qui s'appelle « La guerre sans l'aimer », hein, qui résume un peu tous les poncifs qu'il a pu véhiculer pendant cette guerre. Et finalement, le travail d'ailleurs d'analyse et de critique historique maintenant n'a toujours pas été fait. Hein.
Les titres de cette édition, difficile d'avoir un point de vue précis sur la situation libyque. En est-il exactement de la contre-offensive du régime Kadhafi ? Plusieurs raids ces dernières heures, nous ferons le point avec François Claus, l'envoyé spécial d'Europe 1. Et puis le philosophe Bernard-Henri Lévy, de retour de Libye, lui aussi, sera à la une d'Europe 1 soir à 18h35.
Donc ensuite, bon, comme d'habitude, à la guerre, ça se passe jamais comme prévu. Bon, ça a duré 8 mois, mais surtout au prix d'un écroulement de l'État libyen, d'une guerre civile qui s'est poursuivie, d'une fragmentation quasiment à l'infini du pays, de la société, et donc d'une situation encore aujourd'hui extrêmement préoccupante pour la Libye, hein, puisqu'il n'y a pas pour l'instant de perspective de reconstruction d'un État libyen viable et d'une société, je dirais, pacifiée.
Salut, ça va ? Merci. Alors, combien il y a d'écoutes ce matin, là ? J'en ai 9, moi. Vache. Il y a du café de lancer ou pas ? Ouais. Ok, tiens, j'ai acheté des filtres, moi. Ouais, ça fait 3 fois, c'est pas grave. Ok, j'y vais. Objet, envoi d'une procédure diligentée contre X. Le 7 juillet à 20h47, nous, Jean-Pierre Lenoir, officier, tantôt service. Dans le cadre de l'interception et enregistrement des correspondances émises par la voix des télécommunications, intervenant sur les lignes téléphoniques, procédons à une édition des conversations émises et reçues. Constatant qu'en date du 7 juillet 2011, 8h55, appel 2, Diatakedina, Thierry Gobert. C'est reparti, Thierry Gobert, allô. Takedine, oui, désolé, j'ai pas mon autre téléphone sur moi. Gobert, oui. Takedine, je comprends rien. C'est inaudible. Si on peut se rappeler dans une demi-heure, une heure. Gobert, oui. Takedine, ok. À tout à l'heure. Fin de conversation intéressante.
Donc, Patrick Abzadeh, si on veut un peu schématiser ce qui se passe et ce qui est en partie évoqué dans le spectacle de Nicolas Lambert, puisque je rappelle que ces découpages de citations et de phrases s'arrêtent 2014, à l'hiver 2014, et depuis ça a continué, une nouvelle révélation. Aujourd'hui, les affaires sortent. Alors, est-ce que vous voulez bien me décrire quelques-uns des personnages et des acteurs de cette fable où on croise des marchands d'armes, des bandits, des hommes politiques, des hauts fonctionnaires. Alors commençons par ceux que vous connaissez le mieux, les acteurs libyens. Vous m'avez parlé de Choukri Ghanem, ancien ministre du pétrole retrouvé mort et d'une crise cardiaque dans le Danube. Et c'est lui le détenteur du carnet, mais il y en a aussi d'autres.
Oui, alors il y en a un qui est cité d'ailleurs dans le spectacle de Nicolas Lambert, c'est M. Bachir Salah. Alors Bachir Salah, c'est l'intermédiaire qu'évoque Nicolas Sarkozy dans son entretien téléphonique avec le colonel Kadhafi, donc c'est M. Bachir, hein, comme l'appelle Nicolas Sarkozy. Donc M. Bachir, c'était le grand argentier, hein, du régime Kadhafi, j'ai office un petit peu de chef de cabinet. Il parlait français, donc c'était un interlocuteur privilégié pour les Français. Et donc, finalement, ce monsieur a été exfiltré de Libye dans les conditions, là aussi, rocambolesques. Il a été fait prisonnier par une milice très proche des Français pendant la guerre de 2011. Ils reçoivent l'ordre de le libérer et de l'acheminer sous protection à la frontière tunisienne. Et ce monsieur Bachir Salah se retrouve en Tunisie, où à l'époque, on avait un homme, là aussi, de la Sarkozy, Boris Boyon, ambassadeur. Donc, il est exfiltré. Et on le retrouve en France avec une carte de résidence, une protection, alors que ce monsieur est recherché par Interpol.
Hein, il y avait fichier rouge.
Fiche rouge d'Interpol, donc il était sous protection des autorités françaises, tranquillement. D'ailleurs, on l'avait même vu rencontrer M. Scarsini, Dominique de Villepin aussi, donc un certain nombre de gens. Donc il continuait ses activités comme avant en France. Arrive les élections de 2012, et ça s'est préparé entre les deux tours, mais je crois qu'il a quitté la France le jour même de la proclamation des résultats, donc il part en avion privé au Bourget, bon, là aussi dans des conditions avec un passeport diplomatique du Niger, qui était obtenu là aussi par des pressions françaises. Hein.
Et ça, c'est ce que révèlent Le Monde et Mediapart. Alexandre Giourny, l'intermédiaire, et Bernard Squarcini, ex-chef de la DCRI, c'est-à-dire du renseignement intérieur français, ont organisé son exfiltration secrète. Maintenant, il réside tranquillement en Afrique du Sud.
Monsieur Bachir Saleh, qui lui, je pense, avait des informations éventuelles sur un financement de la campagne. C'était l'homme qui pouvait tout savoir là-dessus. Et il est en Afrique du Sud, où il continue à couler des jours heureux depuis lors, et où, effectivement, les juges n'ont pas réussi encore à l'auditionner.
Assalamu alaikum.
Bonjour, monsieur le président.
Bonjour, monsieur le guide. Qui est la personne que je pourrais rencontrer pour échanger sur les questions délicates? C'est monsieur Bachir ou c'est le ministre qui vient de votre part?
Il se peut Bachir, car il parle français et vous pouvez vous entendre directement.
Entendu, monsieur le guide. Donc je vais rencontrer monsieur Bachir et me mettre d'accord avec lui.
Inch'Allah. Si Dieu le veut, si Dieu le veut.
Oui, je compte sur votre prière, monsieur le colonel.
Merci infiniment.
Au revoir, monsieur le guide.
Un autre nom, Patrick Emadé, c'est Abdallah Senoussi.
Oui, alors Abdallah Senoussi, c'était l'homme de main, hein, des basses œuvres, je dirais, de Kadhafi, qui l'a suivi jusqu'au bout. C'est Abdallah Senoussi qui était aussi chef des renseignements militaires. Il aurait, lui aussi, remis une somme d'argent à un intermédiaire français pour le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Donc ça fait, voilà, ça fait quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément en relation les unes avec les autres, qui affirment le même type d'hypothèse, quoi. Donc ça fait, effectivement, c'est une présomption plutôt troublante.
Ce que relève Le Monde, c'est 7 témoignages à ce jour qui accréditent l'hypothèse d'un versement d'argent liquide du régime libyen pour la campagne Sarkozy de 2007.
Voilà.
7.
Voilà, 7. 7 et de personnes qui ne sont plus forcément en communication les unes avec les autres.
Donc, mais ça ne fait toujours pas de preuves.
Ça ne fait toujours pas de preuves, voilà. C'est toute la difficulté. Alors après, il y a de l'argent qui réapparaît. Hein. Et là, on a le fameux Boris Boyon qui revient sur devant de la scène et qui est intercepté, je crois que c'est le 31 juillet 2013, avant d'embarquer dans un Thalys avec une mallette et, je crois, 300 000 euros et 200 000 dollars. Quoi,
en liquide.
En cash. Et là aussi, bon, ça fait partie des choses qui sont en cours d'investigation, mais voilà, là aussi, ça rentre dans le feuilleton policier, je dirais.
Une étrange affaire révélée par nos confrères de Mediapart. L'ex-ambassadeur de France en Irak et en Tunisie, Boris Boyon, a été interpellé par la douane il y a quelques semaines à Paris, gare du Nord, en possession de 380 000 euros en liquide.
Il n'y transportait une importante somme d'argent, mais dans son sac, les policiers découvrent près de 400 000 euros en liquide.
D'où pourrait venir cet argent?
L'homme n'a ni pièce d'identité ni téléphone portable, mais 3 cartes bancaires. Les services judiciaires de la douane ont ouvert une enquête préliminaire pour déterminer l'origine des fonds. D'ores et déjà, parce qu'il n'a pas déclaré cet argent, Boris Boyon risque une amende de 95 000 euros.
Patrick Imzadeh, côté français, il y a toute une série de noms qu'on retrouve dans le spectacle de Nicolas Lambert. Il y avait déjà Thierry Gobert.
Effectivement, Thierry Gobert. Donc, effectivement, il était responsable du financement de la campagne. Mais le fameux Alexandre Joury, Taqieddine, les deux fameux intermédiaires qu'on retrouve un petit peu dans toutes les grandes transactions d'armement de ces 10-15 dernières années avec le Moyen-Orient. Taqieddine, quand même quelqu'un qui a tendance à dire beaucoup de choses. Donc, il faut être très prudent à l'égard de ce qu'il dit. Mais de toute façon, ces gens-là sont au cœur de cette affaire aussi.
Bourdin & Co sur RMC Info.
Oh ! Notre invité ce matin, Ziad Taqieddine. Ziad Taqieddine. Ziad Taqieddine. Ziad Taqieddine. Ziad Taqieddine. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Ziad Taqieddine. On va essayer de découvrir qui vous êtes.
On peut imaginer qu'ils ont joué un rôle important, hein, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, jusqu'à présent, il y a toujours une impunité, hein, puisqu'on a retrouvé Alexandre Joury comme intermédiaire dans les contrats qui ont été signés récemment avec l'Égypte. Je rappelle que la France est quand même le champion, on a battu tous nos records en 2015 et 2016 en matière de vente d'armement. Donc je dirais que ils ont survécu à l'alternance. Ce qu'on appelle le lobby militaro-industriel est quelque chose qui dépasse les courants politiques. Hein. La meilleure preuve, c'est que, regardez, le Rafale, maintenant, après la guerre de Libye de 2011, est présenté comme combat proven, c'est-à-dire éprouvé au combat.
Et c'est depuis qu'on s'en est servi qu'on peut le vendre.
Tout à fait. Finalement, l'immense paradoxe de cette guerre de Libye, c'est que ce Rafale qu'on n'avait pas vendu à la Libye, on a réussi à le vendre grâce à la guerre de Libye. Les pilotes qui sont allés présenter le Rafale à Kadhafi
pour le lui vendre,
ils sont retournés à Tripoli pour bombarder les bunkers de Kadhafi. Donc c'est...
Et ça, c'est des... je vous coupe deux secondes, mais ça, c'est des confidences que vous avez eues, vous.
Oui, tout à fait.
De pilotes qui étaient allés vendre le Rafale à Kadhafi et qui se retrouvent à le bombarder quelques mois après.
Je trouve, à travers cette petite anecdote, on a quand même une idée du cynisme de cet univers de l'armement. Mais là, en fait, c'est la même présidence et c'est en quelques semaines que s'est joué le retournement. Donc je trouve qu'on a un condensé finalement de passions humaines, de petites histoires, de ressentiments personnels, de business, d'affairisme et puis d'histoires guerrières qui malheureusement se traduit par des centaines et des milliers de morts. A posteriori, ça me sidère quand même.
C'est l'histoire d'un marchand d'armes dont on ne retient pas le nom. Un monsieur sans état d'âme, l'homme qui valait des millions. C'est l'histoire d'un marchand d'armes qui ne payait pas d'impôts, mais qui finançait des campagnes et des balades en bateau. Monsieur Propre est un ami pratique. Monsieur Propre, super brillant. Oui, Monsieur Propre, mieux qu'un lavomatique. Monsieur Propre lave de l'argent sale. La fête a failli s'arrêter à la douane d'un aéroport. À quoi bon prendre un jet privé? Le marchand d'armes en rage encore. La fête a failli s'arrêter pour un petit million et demi dans une valise non déclarée en provenance de Tripoli. C'est l'histoire d'un marchand d'armes qui ne payait pas d'impôts, mais qui finançait des campagnes et des balades en bateau.
Théâtral comme ça, c'est une forme intéressante. Hein.
On va voir Nicolas Lambert, on va voir ce qu'il en pense. Et voilà, à la sortie du spectacle, l'auteur, metteur en scène, acteur, Nicolas Lambert, est en train de parler à ses spectateurs. À chaque fois, après, vous êtes le premier à quitter la salle.
Oui.
Et vous attendez les spectateurs en bas.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Par chance, la plupart du temps, on ne parle pas du spectacle, on me dit « Ah mais oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait ?»
Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est le fond du travail. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vraiment envie quand on sort de ce spectacle, c'est qu'on soit mieux armé pour lire le journal le lendemain, ou pour écouter de la radio, ou pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Et je pense que si on remet dans les mains de chacun des outils, j'ai le sentiment qu'on peut s'en servir. Voilà.
Oui, il y a quelque chose qui m'a fait sourire, c'est la critique que vous avez eue du Figaroscope, quand même, le journal de M. Dassault. Instructif et très drôle, Nicolas Lambert interprète tous les rôles avec une virtuosité remarquable.
Bon, c'est un hommage. Si c'est le quotidien de Monsieur Dassault qui le dit, moi je prends, ça me fait plaisir.
C'est ça en fait, parce que Nicolas Lambert, vous êtes auteur, mais vous n'avez pas écrit un traître mot de cette pièce.
Aucun. C'est un documentaire, voilà. Moi, mon boulot au théâtre, c'est la chair, et on a de la chair et des mots, quoi. Donc la question, c'est comment ça s'incarne? En qui ça s'incarne, ces trucs-là? La corruption, la guerre, le terrorisme. Oui. On n'a pas envie. Moi, j'ai pas envie. J'avais pas envie de faire ce spectacle. J'ai pas envie.
Ah bon?
Non, j'ai pas envie. J'ai pas eu envie d'aller dans
scoltiner des heures d'écoute, d'aller dans le salon militaire.
Mais oui, voilà. Moi, j'en ai fait pas mal des salons.
Des zappings aussi de télé, radio, avec des archives datées.
Voilà, je vais chercher l'info, j'essaye d'être le... Je vais faire vraiment le boulot, mais je te donne des éléments pour comprendre. Il s'est passé ça, puis ça, puis ça, puis ça. Que ce soit simplement les faits qui parlent d'eux-mêmes.
Oui.
Moi, je trouve que ça marche super bien.
Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez compris, nous ne pouvons que vous conseiller d'aller voir le théâtre documentaire de Nicolas Lambert et la trilogie qu'il propose au théâtre de Belleville. Vous pouvez aussi lire Mediapart et Orient 21. Et si vous en voulez encore, c'est l'heure de suivre Antoine Chao qui nous emmène à Arles sur les chemins de traverse numérique.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Bienvenue.
Y a pas de jus, c'est ça?
Qui veut se frotter?
Est-ce qu'il y a du courant là?
Là, il y a un violoncelle. Ça, c'est quoi? C'est une cithare?
Un cobaye à chapeau, oui.
On avait installé un bras mécanique qui vient taper sur chacune des cornes.
Créateur de son!
Et il vient de casser, donc on va voir ce qu'on fait.
Là, ça marche là? Alors, 2023, les frigos ne feront pas de vidéo haute définition. Un film de Sophie Tauber. Une tentative de description imaginaire de la mort d'Internet.
Bonsoir, donc je suis Antoine Kik.
Bon, je suis Marcelien Tunet Roca, je viens de Barcelone.
Je m'appelle Midjovan Seniz, un artiste numérique vénézuélien.
Le nom de l'œuvre, c'est Tribo Électricité.
Alors lui, il est venu faire un truc, tu regarderas, c'est vraiment expérimental et c'est un projet qui était un peu bancal fin septembre et moins bancal maintenant. Voilà. Voilà. Là, c'est John Deneuve. Qui fait plutôt de la musique, et c'est la marraine du festival.
Là, t'as le son d'origine. Donc là, t'as un do. Et un autre son.
Il y a Léo de Avilab, donc le Fab Lab d'Avignon.
Il y a une grande table avec plein d'ordinateurs, des fers à souder.
Des pistolets à colle. Enfin, il y a une diversité de personnages ici. Tout le monde ne fait pas la même chose. C'est vraiment, il y a des gens qui sont dans le making, dans fabriquer des choses qui sont, tu vois, là, c'est une électrovanne avec un ordinateur. C'est un prototype, quoi, tu vois. Mais bon, il y a tout un travail qui a été fait là-dessus. Alors après, Adrien Bolo. Et donc, Adrien, lui, il fait partie.
Là, pour l'instant, il est en train d'écouter des disques CD sur une platine vinyle. C'est quand même bien joué.
Bah, en fait, c'est quand même un hacker. Hein. Mais un hacker au sens large du terme. C'est pas forcément quelqu'un qui rentre en réseau, c'est quelqu'un qui essaye de comprendre comment ça marche, détourner, fabriquer.
Et d'ailleurs, là, ça y est, j'ai des bons résultats. Là.
Ah, t'as plus de, le rapport signal-bruit, il est super.
Ah ouais, là, c'est ouais, depuis 30 secondes. Hein, voilà. C'est un petit patch pure data qui tourne sur un Raspberry Pi, parce que ça, c'est le côté
hacker.
Quoi.
Et on peut écouter, alors?
Oui,
ta dernière production.
Et là, oui, on peut écouter.
Voilà, nous sommes à Arles, à la Bourse du Travail, quand les hackers rentrent en création et en résistance. C'était la semaine dernière, une soirée qui clôturait sous tension une semaine de résidence de création numérique et collective. Sous tension, c'est le nom de la résidence, parce que la soirée était plutôt accueillante et sympathique, malgré un Eldorado numérique dont l'horizon pose question. C'est parti pour un compte-rendu sonore de cette initiative arlésienne et improbable, DataBitMe, toute une bande d'allumés et de furieux du numérique.
Il n'y a pas de jus, c'est ça?
Et David Le Paul, qu'est-ce que tu fais toi ici alors dans cette
alors,
histoire?
Alors là, dans cette histoire,
dans cette bourse du travail, dans ce festival DataBitMe, le sixième, hein, c'est ça?
Bah, ce que je fais, c'est que en fait, il y a un discours perpétuel sur le numérique. Alors, tu peux pas ouvrir un journal, une radio, une télé sans qu'il y ait des mecs qui te parlent de numérique. Mais c'est un numérique très marketé, très marketing, très clinquant. On caresse les téléphones, on a le dernier machin, le dernier truc, et on va parler des heures de machin comme ça, ou alors d'applications pour surveiller que les élèves n'ont pas séché, enfin des trucs qui sont tout à fait pas excitants. Et que, en fait, si on veut vraiment. Que ce qui est en train de se passer, parce que c'est complètement révolutionnaire, c'est un peu comme l'imprimerie, c'est-à-dire il y a eu un moment, on pressait pas les bouquins, il y avait 15 moines qui savaient lire et c'était une minorité. Et hein, tout d'un coup, les livres sont arrivés, ça s'est répandu, ça a mis des siècles. Là, on est exactement dans une logique comme ça. Avec les technologies qui arrivent, il y a plein de possibilités. Le problème, c'est que soit on rentre dans des logiques où c'est pas toi qui définis ce que c'est, et à ce moment-là, tu es prisonnier de la volonté d'industriel, de politique, de je sais pas qui. En tout cas, c'est pas toi. Ou alors, t'essayes collectivement de te mettre ensemble, de faire des trucs, de te les montrer déjà, et de discuter les uns avec les autres sur comment t'as fait, et donc de comprendre et de chercher à rentrer dans les choses du numérique, le code, le fonctionnement des machines, les différentes interfaces. Si tu veux, c'est ça, c'est s'approprier, et puis c'est surtout échanger les uns avec les autres. Là maintenant, c'est horrible parce que chacun a son écran, et cet écran, en fait, ben, chacun met ce qu'il veut dedans. Donc en fait, il n'y a même plus de communauté. Même à l'intérieur des familles, il y en a un qui va regarder une série, l'autre qui va aller lire le journal, le troisième va faire un autre truc. Alors on nous présente ça comme une évolution, mais le problème, c'est que ça segmente vachement tout. Et donc on est dans un monde qui est assez segmenté, de mon point de vue. Après, si tu veux, c'est une des particularités de cet endroit, c'est qu'on échange des idées. C'est pas qu'une dimension où on bidouille. C'est pas que du making, maker, machin. C'est aussi avoir un point de vue. Essayer de comprendre ce qui se passe et essayer d'interagir avec ça. Mais collectivement, et qu'il y ait des réseaux qui se créent. C'est-à-dire que de là, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que les gens se rencontrent. Et que quand le festival qui dure qu'une semaine, les gens rentrent chez eux, en fait, il y a des réseaux qui se construisent, et c'est très lent, mais ça se construit. Donc c'est un lieu de rencontre sur une espèce de corde. On est des funambules. On a aujourd'hui une nécessité d'inventer des formes de résistance, des formes, parce qu'on est dans un système qui recycle tout. C'est permanent. C'est-à-dire, ce qui aujourd'hui est complètement en résistance, demain matin, tu le retrouves sur les affiches.
Il récupère, tu veux dire.
Voilà, il récupère, il recycle. Il recycle, c'est-à-dire, tu vois, la forme la plus subversive qui va remettre en cause le système, deux semaines après, c'est dans les pages de pub. C'est-à-dire le pire truc. Et ça, c'est constamment. Donc, on a un enjeu sur la fabrication de formes, parce que c'est une manière de garder une dynamique. Et que les formes de résistance qui sont propres, qui ont existé, qui étaient au 19e, au 20e siècle, elles ont pris un terrible coup de vieux. Avec les espaces numériques, on croyait qu'il allait y avoir une démocratie, mais c'est on croyait. C'est-à-dire, tout ça est très relatif. Après, on a vu aux États-Unis que, par exemple, Occupy avait généré Bernie Sanders. Donc il y avait un espoir qui a traversé la société. Mais cet espoir, il a été quand même contrarié. Là, je pense qu'on est vraiment, le mot, voilà, c'est pas vraiment une guerre ouverte, mais il y a quand même une guerre. L'intelligence, elle est toujours là, elle est en action, elle est terrible. Et je pense qu'en inventant des formes, ce qui se passe ici, on ouvre des espaces qui peuvent débloquer l'imaginaire des gens et peut-être les sortir des chemins qu'on leur trace dans la publicité, dans le marketing, dans tout ça. J'ai été vachement touché quand il y a eu Merci Patron, le mouvement Nuit Debout. J'ai été vachement touché, j'ai vu ce truc-là, j'ai dit, enfin il se passe un truc, les gens y vont. Du coup, les formes de résistance à inventer, il y a vraiment un enjeu là-dessus. C'est-à-dire, comment on fait ? C'est-à-dire, si j'avais la réponse, mais il y a un truc à inventer, c'est-à-dire c'est ça.
Alors c'est la résistance 2.0, sauf qu'il ne faut pas utiliser 2.0, parce que maintenant, même les croquettes de chèvre sont 2.0.
Ah oui.
Cet outil extrêmement simple, mais aussi extrêmement puissant. Il peut être utilisé pour ébaucher un poème ou achever une symphonie. Il a été dans les salles de classe, dans les salles de réunion, même dans l'espace. Et nous sommes impatients de voir où vous l'emmènerez ensuite. Plus fin, plus léger, plus puissant.
Et il peut faire quoi d'autre ?
Maintenant, la caméra prend des vidéos en 4K.
Wow.
Et il peut faire quoi d'autre ?
C'est Marie-Lou de Zinc. Donc Zinc, c'est une structure qui est à la Friche Belle de Mai. C'était la première cyberbase. Donc c'était une des premières connexions Internet en France en 1992. C'est ouf, hein ?
Ouais.
Et Marie-Lou...
J'étais à peine née, mais ouais.
Ah oui, moi j'étais déjà née. Toi aussi, peut-être ? Ouais. Non, on était déjà nés, nous. Mais quand on nous disait Internet, à ce moment-là, on disait « Ah, les mecs, mais arrêtez !» Et on ne comprenait pas ce que ça allait être. Et puis et là, il y a Céline Berthoumieux, de Zinc aussi.
Alors nous, on est à Marseille,
ouais.
Un centre de création des arts et des cultures numériques. Et on accompagne les gens, tout un chacun, dans leur appréhension du numérique et des nouvelles technologies d'une manière créative. C'est-à-dire comment les gens, petit à petit, ils apprennent à se servir des machines, de ce qu'il y a dans les machines, des différentes machines au fur et à mesure qu'elles sont créées, l'imprimante 3D, les casques à immersion, etc. Et donc on leur apprend à la fois à utiliser les machines, mais à la fois aussi à être créatif avec toutes ces belles machines qui ne cessent de nous envahir. Et par ailleurs, on est aussi ici maintenant parce qu'on va enregistrer une émission de radio qu'on fait sur Grenouille qui s'appelle La Clique Numérique sur le décryptage d'un monde en régime numérique.
Alors, c'est de l'éducation populaire ?
C'est de l'éducation populaire 3.0.
Ah, ouais. 3, ça y est.
Ouais, ça y est, on est passé dans le 3.0.
Et c'est tout à l'heure, vous le faites en direct d'ici?
On enregistre autour de la thématique d'explorer et d'imaginer ce que pourrait être une société low-tech. Et est-ce qu'on pourrait pas imaginer un monde un peu moins énergivore et y compris à partir de ces machines-là? Est-ce que ces machines-là sont pas aussi l'occasion peut-être d'en fabriquer d'autres qui nous permettraient d'être un peu plus sobres dans notre consommation d'énergie? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la clique numérique numéro 12. Alors figurez-vous que nous sommes à Arles en ce moment même, et si nous sommes à Arles, c'est que nous avons décidé de rendre visite au festival DataBitMe. Alors bien sûr, lorsque vous écouterez cette émission, le festival sera terminé puisqu'il s'est tenu du 28 octobre au 6 novembre. Festival consacré aux arts et cultures numériques qui est une plateforme regroupant des talents pour avancer dans diverses recherches et produire ensemble un moment de spectacle, monstration, exposition, inspiration comme ils se définissent. La technologie fabrique des corps connectés ailleurs, là, mais pas là en même temps. DataBitMe se veut un endroit pour chercher des limites aux promesses de la société numérique. Le 21e siècle naissant est pétri de doutes, mais refuse les questions, au profit de réponses toutes faites et malgré tout reposantes. La clique numérique.
Katrina est arrivée, et Nicolas Hulot fâché. On a tué des taïkonos, tout ça c'est de ma faute.
Si les forêts sont en feu, si les volcans sont furieux, les accidents de ferry boat, tout ça c'est de ta faute.
J'aurais dû respecter mes parents, j'aurais dû me brosser les dents, j'aurais dû donner au mendiant, j'aurais dû voter plus souvent.
T'aurais dû trier tes déchets, ne pas aller sur Pirate Bay, t'aurais dû payer tes factures, avoir des idées plus pures.
Tant de déchets dans la Seine, tant d'uranium dans nos veines, tant de pétrole sur la côte, tout ça c'est de ma faute.
Nourriture sur le Morbier, avions de ligne écrasés, OGM dans ton entrecôte, tout ça c'est de ta faute.
Les ours blancs qui se battent,
les acariens qui nous grattent,
les infections rigolotes,
tout ça, c'est de ta faute. T'aurais dû prier Jéhovah, t'aurais dû invoquer Bouddha, t'aurais dû manger plus d'hosties et te baigner dans l'eau bénie.
Mais maintenant je suis content, car au moins j'ai de l'argent. Alors tu vois mon petit loup, je peux mourir tranquillou.
J'aimerais tester, c'est ça. On va rajouter un petit peu d'étain neuf. Pareil, si tu peux me le tenir.
Alors, si tu pousses trop loin, il va être intéressant de le laisser, sinon on peut mettre une résistance.
C'est le bending, hein. Le circuit de bending. C'est-à-dire. Alors, Adrien
Bololipsum.
On sort de la bourse du travail, quand même. Ouais. C'est pas rien, quoi. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez sur quoi ici pendant ce festival DataBitMe? Et c'est une résidence, hein, c'est ça, vous êtes plusieurs, là il y a une grande table, il y a des bidouilleurs, des hackers en tout genre. Qui se retrouve là pour cette résidence aujourd'hui, en ce moment à DataBitMe à Arles?
Alors on est quelques-uns à se retrouver, en général on est effectivement ce qu'on appelait des bidouilleurs ou des hackers, donc on s'amuse, on travaille avec la technologie, ou contre la technologie, ça dépend. Mais en général, les gens qui se retrouvent là, c'est plutôt des gens qui ont un profil artiste aussi, enfin qui sont artistes et hackers. Donc, ce sont des artistes qui réfléchissent autour de la technologie et détournement d'objets, etc. Voilà. Moi, je travaille plutôt dans le domaine sonore. Je suis musicien hacker. Moi, ce que je fais, c'est du circuit bending, entre autres. Donc, c'est du détournement de jouets d'enfants, concours circuit, et on cherche à créer des nouveaux sons à partir de court-circuits dans le jeu.
Alors, Bololipsum, comme ça qu'on t'appelle,
oui.
Ça veut dire quoi, travailler contre ou avec la technologie?
Eh bien, ça veut dire tout simplement que C'est comment soit la technologie a la maîtrise de nos vies, soit on la maîtrise. Moi, ce que j'entends par avec ou contre la technologie, c'est que il y a beaucoup de propagande autour de la technologie aujourd'hui. Il y en a toujours eu, notamment quand on parle de numérique, démocratisation du numérique, etc. En fait, c'est pas plus démocratisé que ça au final, parce que en fait, on a dans les mains des objets. Dans l'absolu, qui nous permettent de nous émanciper, mais sauf qu'ils ne sont pas du tout utilisés comme ça, quoi. Ils sont utilisés comme un truc monocanal, comme de la télévision, par exemple, où on reçoit l'information, mais au final, on en diffuse très peu. Alors qu'on pourrait être, en maîtrise des moyens de production, on a les outils pour, sauf qu'en fait, ça ne marche pas du tout comme ça, parce qu'il y a une méconnaissance des outils. Et il y a une grosse carence en termes d'éducation autour des outils qui nous entourent. Donc on parle d'internet, des ordinateurs, mais pas que aussi, de tout un tas d'objets qu'on peut récupérer dans les poubelles. Ça c'est plutôt mon credo. Et fabriquer une autre vision du monde, voilà, un autre projet social, politique. Et notamment, je parlais du circuit bending. Moi, ce qui me plaît dans les jouets circuit bendés, c'est que les jouets d'enfants. Donc le circuit bending, le court-circuitage de jouets, hein, c'est ça que ça veut dire. Les jouets d'enfants, pour moi, c'est quand on les sort de leur boîte ou quand on les achète dans un magasin, c'est des outils de propagande qui véhiculent des biais culturels, de la misogynie, parfois même du racisme, avec des représentations du monde catastrophiques. Et on donne ça aux enfants. Et moi, ce que j'essaye de faire, dans une moindre mesure, c'est de transformer ces jouets et les amener dans un autre imaginaire, où on n'est plus du tout sur ces représentations, on est dans des sons complètement... chaotique ou des sons réorganisés, on reconnaît plus les voix, c'est complètement expérimental, mais on essaye d'amener les jouets ailleurs, quoi. Ailleurs que dans cette vision des choses complètement stéréotypée, et de casser un peu cette propagande.
Alors on a encore des prototypes, les gars.
Essaye de faire une grosse voix comme lui, le gros éléphant.
Alors, moi, je suis David et je dois faire un atelier sur la façon dont on peut chiffrer ses emails. On peut échanger des mails de façon sécurisée avec GNUPG. Un système de chiffrement asymétrique, puisqu'il faut deux clés, enfin, il faut une paire de clés.
Et c'est quoi l'enjeu, alors, d'un festival comme DataBitMe ? C'est quoi la philosophie ?
Alors, ouais, je pense pas qu'il y ait d'enjeu. Effectivement, il y a une philosophie. Je pense que c'est plutôt une espèce d'atelier. C'est ramener des gens qui sont à la pointe, enfin, qui font des trucs un peu pointus dans leur coin. Et c'est plutôt de la recherche. T'as des mecs qui font des expériences avec l'informatique, qui essayent des composants, qui pensent des petites machines qui n'ont pas vraiment de finalité. Parce que c'est un peu comme l'art. Hein. L'art, c'est un peu de fabriquer des trucs un peu futiles. Je crois qu'on est un peu là-dedans, le DataBitMe, c'est une espèce d'atelier où t'as des mecs qui testent des trucs et qui se rencontrent. Moi, j'aime bien venir parce que je rencontre des gens qui sont assez pointus dans leur domaine. Et moi, ça me donne des idées. Enfin, je vois des gens que je vois pas ailleurs.
Le dernier prototype, alors c'est Clément et Morusque qui ont développé, c'est le bonus.
Yann Van der Kreuz, donc Morusque. Musicien, développeur, je viens aussi du monde du jeu vidéo, voilà, du jeu vidéo indépendant surtout.
Morusque, mais qu'est-ce qui se passe ici alors à DataBitMe ? Qui se retrouve dans ces endroits quand même assez expérimentaux, assez loin de ce qui se passe ailleurs dans le numérique ?
Disons qu'ici on essaye toujours d'avoir une espèce d'approche où on ne fait pas que utiliser un logiciel, on va peut-être d'une certaine façon le créer nous-mêmes ou le détourner ou l'associer avec quelque chose avec lequel il n'est pas censé aller ou avec des formes physiques d'art ou d'électronique, etc. Enfin, je sais pas. Je pense que tout le monde d'une certaine façon détourne quelque chose parmi tous les gens à cette table en tout cas. Qu'est-ce qu'on a sur cette table? On a des relais, des solénoïdes, des choses comme ça. Il n'y a pas vraiment d'utilisation typique de ça finalement. C'est des choses assez bas niveau. Du coup, c'est plus qu'est-ce qu'on en fait? Ça existe, ça marche, comment ça marche et qu'est-ce qu'on en fait, voilà.
Alors c'est quoi? C'est de la low-tech ce que vous faites? Vous détournez la high-tech pour faire des outils qui semblent quand même assez primitifs. Là, il y a du scotch, beaucoup de scotch, des fers à souder, à l'étain, des instruments, disons, acoustiques que vous faites jouer automatiquement, enfin de façon aléatoire, ouais, ou je ne sais pas.
Ouais. Là, je pense qu'on peut se dire que c'est low-tech. Hein. Je ne sais pas exactement quelle est la définition, mais là, je pense qu'on est dedans dans tous les cas. On a des cailloux pour faire contrepoids avec des bouts de bois et des machins, donc c'est assez artisanal.
Mais vous vous considérez comme des artistes, des hackers
On va dire qu'on est développeurs à la base ou musiciens et que là, ça nous permet d'expérimenter des trucs qu'on ferait pas d'habitude.
Bravo pour lui qui court ! Sur France Inter.
It will happen on a Sunday. It will begin with a great sound. From the ground to the sky and from the sky to the ground. Smoke like mountains and ashes at your door. Fear, believe me, will link people when love won't do it anymore. Fear, believe me, will link people when love won't do it anymore. But I will hide in the mountains, in the deep of my northern globe. And I will bring with me some friends, and we will wait for the new dawn. And when the storm will be gone, we shall go out of our caves. And I will piss on your dead body, I will spit on your graves.
I know I sound crazy, my name is Mr. Hyde. I do look like an angel, but
there's a demon inside.
First,
an excitement. Something is finally happening.
I chat for the first time with my neighbors, and the phone doesn't stop ringing.
Alors moi je m'appelle Florence Inouye, je suis graphiste. Je travaille surtout sur l'imprimé. Alors DataBeatP, ce qui m'a attiré d'abord, c'est l'aspect musique électronique et l'aspect art numérique, l'aspect art visuel. Je me suis dit tiens, allons voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils fabriquent. Et ce que j'ai vu, c'était très très éloigné de ce à quoi je m'attendais. En fait, c'est plus comme une communauté de gens qui sont dans une recherche par rapport au numérique. C'est un rendez-vous où des gens de différentes communautés de ce type qui cherchent des alternatives, qui cherchent justement à promouvoir des usages différents, à promouvoir des bonnes pratiques et qui eux-mêmes s'imposent des pratiques différentes, par exemple en défendant le libre. C'est-à-dire sortir des systèmes propriétaires que nous imposent les grandes sociétés informatiques qui nous tiennent captifs, en fait, avec les produits qu'ils nous vendent et dont on se trouve dépendant. On se retrouve à être dépendant des mises à jour et tout ça. Donc, DataBeatMe, on peut parler de contre-culture, mais c'est la culture qui nous manque, en fait. C'est le recul, le regard critique qui nous manque sur le numérique, je pense. Parce qu'on a tellement pris l'habitude au XXe siècle de produire sans réfléchir à l'après, sans anticiper sur les conséquences, sans même imaginer qu'il puisse y avoir des conséquences, qu'on applique pour le moment exactement les mêmes raisonnements à tout ce qui touche au numérique, et ça va faire très très mal. En fait, c'est bien réel, c'est bien matériel. C'est des gens qui sont traités comme des esclaves dans des usines en Chine, qui nous permettent de faire des selfies et de les partager et de les tweeter et retweeter et bloguer et rebloguer à l'infini.
J'invite Trio Schizophonie à se mettre en place.
Ben moi je m'appelle Pauline.
Faut vous rapprocher de la scène parce qu'après on va faire de la musique.
Quand je côtoie des gens comme David et Lucie, qui au quotidien toute l'année travaillent par exemple avec des gens fichés S, avec des quartiers qui sont en difficulté et qui n'ont pas peur d'aller vers ces gens pour leur parler de digital, de numérique, mais avec des mots simples, et amener vers eux des artistes que ces gens-là n'auraient pas forcément eu l'occasion de voir ici ou ailleurs, et où ce serait pas posé la question, je trouve que c'est ultra salvateur, parce que ça crée des vrais espaces de discussion et ça laisse les gens super libres d'appréhender les choses comme eux ils l'entendent. C'est nécessaire et c'est incontournable. Voilà, et on y tient énormément.
DataBeatMe, la prochaine édition, ce sera l'année prochaine. Merci à toute l'équipe. C'était
C'est comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site de France Inter. Laissez-nous des messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux. Que le bruit court, hashtag comme un bruit. Le maniement des larmes, la pièce de Nicolas Lambert, joue au théâtre de Belleville jusqu'au 4 décembre. Ne la manquez pas. Juste après les infos, prenez les routes de la musique avec André Manoukian et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.